Georges Icoud, la bonne leçon. La jeune institutrice, très pâle de visage à cause d'une âme surilluminée, a suspendu sa leçon durant l'accablante après-midi italienne dans la petite classe des tout jeunes enfants à Motta Visconti. Par les fenêtres ouvertes auxquelles une brise débrisoire enfle de temps en temps le store mi-baissé comme le jabot d'un pigeon qui se rengorge, s'aperçoit le pays vert et fertile au pied de l'Apennin, avec d'abord la crayeuse rue villageoise en prolongeant une avenue de peupliers entre lesquels, se continuant l'une dans l'autre, les moissons sous des lignes de mûriers alternent avec de minces sarments de vignes dont la lumière crue blanchit les petites feuilles. Et c'est le blé, le raisin et aussi la soie. La denrée de luxe, voisinante avec le pain qui devrait être à tous, avec ce vin qui devrait aussi réconforter tous les hommes et leur permettre de communiquer toujours sous les deux espèces. La soie qui la connaît autrement que dans les Magnaneri à Motta Visconti. Déguenillée pour tout vêtement, la chemise bistre, la culotte roussie et très à jour, soutenue par des bretelles dépareillées, pieds nus, les petiots sommeillent sur leur abécédaire, dans de jolies poses repliées, avec des mous, des sourires, plein leurs grosses lèvres, auxquelles viennent butiner les caresses des rêves. Des tignasses bouclées ou broussailleuses et des joues potelées s'appuient sur le petit bras gourd et gras, des joues que hâle la poussière et que carmine le sang neuf. Et c'est un chuchotement des respirations fortes que berce le bourdonnement des grosses mouches bleues. L'institutrice, la pauvre, à l'âme bonne et passionnée, profite de cette trêve pour rimer des chansons douces et pitoyables. Cette atmosphère des miséreux en fleurs des enfonçants de parias lui inspire des choses compatissantes et navrées. Et ce premier âge de cerf rural, ces germes d'humanité taillables et corvéables, l'induisent hors de douloureux assandrissements, car elle songe à ce qui devrait être et à ce qui ne sera pas encore pour tous ces êtres si neufs et si candides. Elle s'apitoie, touchante et maternelle, caressant pour tous ces garçonnets des rêves de quiétude et de soleil. Connaît-elle la féodon magique pouvant conjurer les destins et faire pleuvoir sur ses têtes la joie, la sérénité, les illusions et les tendresses? Que ne peut-elle leur s'assurer, comme aux simples fleurs des prairies, les sucs vivifiants pour entretenir et épanouir le velouté et la fraîcheur de leur gracieux visage? Elle sait ce qui leur manque déjà dès le seuil de la vie. Elle sait les privations plus dures encore qui vont suivre. Elle sait l'équinité et l'opprobre qui les guette. Ah, ne pouvoir en rien désarmer la misère fatale, assurer toute cette jolie pousse humaine contre les bûcherons et les faneurs industriels, n'être que le pauvre poétesse apitoyée et dolente, qui les aime bien, mais qui n'a rien à leur donner que ses larmes et ses vers de charité. Ses rimes gracieuses humectent le papier blanc comme les pleurs son mouchoir. Elle se prend à scruter l'avenir de ses écoliers. Pauvre fleur d'épine, rossignol de la chaumière, que seront-ils dans 10 ans, vils ou pervers, compteurs de bourdes, patients manœuvres ou coupeurs de bourse, galériens soumis de l'atelier ou subversifs ouvriers des prisons? Où les reverra-t-elle? À la caserne? À l'hôpital? À la morgue? Au bagne? À l'échafaud? Fi, quelle perspective sinistre viennent-elles d'évoquer là? Généralement, les poèmes de la bonne institutrice sont des aspirations et des désirs. Elle essuie les larmes sans songer à flétrir ceux qui les font couler. Elle panse les plaies et les blessures des victimes sans se retourner contre les bourreaux. Mais aujourd'hui, plus âcre est son inspiration, et son vers revêt une sorte de colère, et de l'impatience se mêle à son évangélisme. Un trouble anormal l'envahit. Italie, Italie, ne seras-tu toujours qu'une mère aux mamelles taries pour les milliers d'enfants qui eussent enthousiasmé tes divins poètes et tes artistes créateurs? Que deviendront-ils, ceux-ci, les petiots que je choie, ceux à qui j'apprends à lire, que je couvre de mon mieux et le plus longtemps possible sous mes ailes? Liront-ils encore plus tard? Et quels livres? À quels éducateurs iront-ils? Devenus adolescents, jeunes hommes, ne rencontreront-ils toujours que des maîtres, des corsaires et des rapaces pour convertir toute leur force, leur sève, leur énergie, leur généreuse expansion en sordides machines à gagner de l'argent? Quoi? La noble terre italienne ne produira-t-elle jamais que des ilotes résignés? Quoi? Pas un mâle, pas un homme libre, pas un révolté, pas un transfuge du travail inique, pas un rédempteur éprouvant la sublime folie du sacrifice, et qui, tandis que tout se fige et se stéréotype dans des œuvres de servage, ferait un geste de délivrance, pas un qui, fatigué de poêler les chines, se redresse et frappe à son tour, ou qui aille jusqu'à tuer. Ciel, quelles lignes incendiaires osent-elles bien tracer, la simple et faible femme? Décidément, elle n'écrira rien qui vaille aujourd'hui. Et elle reporte ses yeux de son manuscrit vitroyeleur sur ce joli parterre de fleurs enfantines. Ô candeur, ô parfaite insouciance! Mais comment a-t-elle pu évoquer conjoncture si ténébreuse en présence de cette aube en chair? Oh, c'est mal ce qu'elle allait faire là. Vierge morose, trop imaginative, pourquoi n'engendre-t-elle aussi des enfants? Elle ne concevrait pas alors pareille chimère et pareille larve. Du moins, apprendrait-elle, par l'instinct impérieux des ardeurs charnelles, ce que veut la nature, la vie élémentaire? Elle serait édifiée, sans phrases et sans spéculation, sur le simple pourquoi de notre existence, de notre passage ici. Que ne pense-t-elle à autre chose? À quoi bon vivre dans l'avenir? Le devoir n'embrasse que l'heure présente et le moment immédiat. Pourquoi rêver, triste, trop songeuse, fille pauvre? Il est si simple de vivre, enfant, amante et mère, et de finir sans avoir ruminé des destins et des lois autres que celles que se consentit par le nombre et la société? Ah, cœur trop tendu, désarme, désarme, il est sacrilège! C'est tenter l'inconnu que de songer trop obstinément à la misère et à la mort devant ces bambins, cette tiède couvée. Oh, redoute que par tes incantations lyriques tu n'appelles des sorts et des maléfices sur cette tête mignonne auquel tu aurais voulu dispenser les dons providentiels. Aussi la voilà qui, bonne et mystique, se met à prier en arrêtant ses yeux visionnaires sur l'un des marmots, précisément le plus gentil de la classe. Il repose, souriant chérubin au long cil d'or, sa menotte presse d'un geste volontaire la jambette ébréchée au moyen de laquelle il taille à son crayon, et ses lèvres un peu grosses, mais si rouges, comme toutes celles des Transalpins, s'avancent à la jolie moue d'un lutin à qui on voudrait enlever un jouet. Certes, il est le plus mignon de tous, si charnu, si rosé, mais aussi le plus pauvre d'entre ces pauvres. Enfant pensif et taciturne, avec de subits accès de babil et de turbulence, un brin fantasque et volontaire, souvent malgré la douceur et la caressante tutelle de l'institutrice, il déserte l'école pour aller battre des chemins très loin. Sans doute rêve-t-il à présent de maraudes par les mûriers et d'une ample cueillette de pêches et d'abricots. L'institutrice s'est attachée à ce galopin qui aurait l'air d'être fait de marbre rose si le plus souvent la crasse le patinait comme un bronze de Donatello. Et voilà qu'elle songe, non sans mélancolie, aux 10 ans du petit qui sonneront l'été prochain, moment que ses parents, d'infimes journaliers, choisiront pour l'envoyer à Milan comme apprenti boulanger. Attendrie, elle se répète le nom du gracieux dormeur, et ce nom même, Santo, est une prière capable d'éloigner les suggestions périlleuses et impies auxquelles elle s'abandonnait tout à l'heure. Ah, prie la bonne âme, que celui-ci, mon Dieu, ne connaisse point là-bas les corruptions, les souillures et les empoisonnements des vilains métiers. Défends ta généreuse plante, ô nature, contre le souffle de l'atelier. Que la fièvre urbaine ne flétrisse pas ses joues et ne leur enlève cette inappréciable velouté de pêches mûrissantes dans lesquelles il enfonce des quenottes presque fratricides. Et elle songe. Hier encore, à la procession de la fête-dieu, c'est lui, Santo, qui était joaillier à croquer en petit Saint Jean-Baptiste. La peau du mouton rejetée sur l'épaule, avec sa chemisette bleue bordée d'or, ses jambes nues et potelées, ses cheveux bouclés, sa croix d'or en guise de boulette, et tenant en laisse l'agneau tout blanc et docile. Il marchait dans la procession, ce Santo, mignon et presque eucharistique, que l'encens embaumait et que les cierges étaient blancs. Quelques-uns étaient enrubannés de rouge et des corbeilles de rose saignaient sous les flèches du soleil. Des hymnes doux comme le miel balsamiaient cette matinée de prière. Oh, les musiques suaves, énervantes tout de même! Et les manants, les serfs, t'applaudissaient du cœur, petit Santo, comme un morceau de leur chair angélisée et de leur rude cuir de peinard, transformé en viande du Seigneur. Et les mères, heureuses, un tantinet jalouses, s'attendrissaient sur toi, pleurant presque, et en te voyant passer, agenouillées, leurs poupons sur les bras, elles embrassaient dévotement et avec un peu de fièvre, ces bambins, en les rêvant déjà béatifiés, petits saints d'un jour, Santo comme toi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, agneau de Dieu qui rachète les péchés du monde. Pauvre petit, où seras-tu dans 10 ans? À la caserne? À l'hôpital? Dans quelle procession figureras-tu encore? À quel pas plus triste que la plupart des processions de ce monde marcheras-tu? Non, arrête. Encore ces vilaines appréhensions. Mais c'est cependant ici le dernier endroit où devraient lui venir pareilles inquiétudes. Est-ce l'étouffante chaleur qui distille ses présages sinistres? Et dans ses limbes, pourquoi épandre des giries et des épouvantes purgatoriales? Quelle insolite angoisse la prend au sujet de l'écolier endormi. Santo, qu'as-tu fait? Parle. Qu'as-tu envie de faire? Dis-le-moi vite. C'est en vain qu'elle évoque la paisible procession de la veille pour chasser le reflux des images véhémentes et funèbres. Ses pressentiments ressemblent aux frissons poétiques des sibylles sur le trépied. Ce qu'elle prétend revoir et se rappeler se déforme, se travestit en des visions qui n'ont plus rien de commun avec ses souvenirs. Ainsi le pieux cortège tourne dans un défilé houleux et sombre d'une foule qui trépigne sur place ou qui chasse comme la tourmente. Devant l'institutrice ébahie, surgit un grand garçon de 20 ans, les épaules larges, les mains fortes, solides et décidées par la carrure, imberbe, blond, au teint d'ambre pâle et d'œillets roses avifiés aux pommettes un peu saillantes, aux yeux extatiques, presque effarés, aux traits gracieux et solennisés comme par une latente tragédie, un imperceptible duvet couvrant sa lèvre supérieure, les allures, se dit la voyante, d'un conscrit dépaysé et ahuri qui viendrait de passer sous les ciseaux du perruquier, ou mieux, non, pis encore, d'un prisonnier qu'on toise et qu'on mesure dans l'antichambre des cachots, et qui, somnambulique, regarde derrière lui, du rouge devant lui, du rouge encore. Il porte sur le tricot du geindre un bourgeron gris flottant, la casquette de toile blanche à visière plate un peu relevée à la marine, emprisonne mal ses luxuriants frisons, et une cravate bleu pâle s'ajuste au collet très échancré de son jersey. Une halte, une accamille de la foule volcanique et trépidante, dont il représente le centre, le foyer d'intérêt, le camp. Est-ce durant une seconde ou moins, devant la rimeuse hypnotisée. Embarrassé de ses mains, les bras ballants, il préfère à voix basse, presque en chuchotant, pour elle seule. « Me reconnais-tu, non ? Je suis cependant un des tiens. Je suis ce révolté, ce rédempteur que tu souhaites. Regarde-moi bien. » Elle veut protester, mais comme pendant les cauchemars, un poing lui noue la gorge, et elle le dévisage, médusé par son impérieuse douceur, par le sourire mélancolique et de plus en plus ambigu qui affleure à ses lèvres presque trop grosses, mais si rouges, ses lèvres italiennes, appétissantes et copieuses, par la magnétique caresse de ses prunelles d'un bleu de violette de Parme, des prunelles qui enrichérissent encore sur l'éperdue bonté de la bouche. Et la voix, susurrante et infréfléchie, joue du cœur de la royauté comme d'une lyre voilée de crêpes. Tu me crois un paisible gars, un peu molle, un peu landor, musard, baglaudier, amusé d'un rien, cueillant les jolies filles comme autrefois les abricots et les mûres aux espaliers du préfet, boudant la boutique et la fourmi. Toujours comme autrefois, j'éludais et pourtant si tiède leçon, ô grande sœur. Tu me crois de ceux qui s'attardent et qui s'oublient, pâmés, en proie à quelques gouges expertes, habiles à déniaiser les plantureux adolescents. Oh, chère songeuse, que tu te blouses! Et son sourire s'électrise et sans fièvre. Si bien que sa bouche semble saigner dans son visage blêmissant comme une aube de supplice, et il hoche gravement la tête, essaie, ainsi qu'on part toujours l'institutrice, comme si le col nerveux, mais d'une délicatesse dérisoire à côté des puissantes épaules, ployait, prêt à rompre, pareil à une tige, sous une trop lourde corolle. Écoute, il m'a pris l'aversion des plaisirs de mon âge et des métiers de mon temps. Je n'aime pas la manière des autres enfants, des hommes. J'ai rêvé des dévouements et des communions sans but, sans utilité, sans justification naturelle, par la seule vertu de la sympathie, et pour le plaisir de se donner, de s'immoler même en une infinie caresse. Oh, ces compagnes rieuses et frivoles, qui pleurnichent à la vue d'un oisillon tombé du nid, et que la perpétuelle tragédie humaine laisse indifférente, et rend même complice, pas toujours complice sans le savoir. Oh, ces amantes que la nature, qui veut une éternité de mortel, leurre et affole par un éclair d'infini. J'éprouve pour elles l'aversion biblique. Elles sont les troubleuses et les diversionnelles qui écartent les pensées altruistes et les vouloirs virils. Elles ne se dévoilent, vous, que pour endormir, amoindrir et ravaler les ardents et les forts. Elles minent les colosses au pied desquels elles feignent de s'étendre. Elles sont souffleuses d'égoïsme, de coupables désintéressements, de détachement du devoir pour des milliards de brutes qu'elles fournissent à la consommation terrestre. Combien ont-elles fait avorter les grâces, les vocations, les génies, les âmes surhumaines? Si elles engendrent dans la douleur, elles se vengent de leurs souffrances en livrant de nouvelles proies à cette planète maudite et en épiant avec une joie perverse l'invasion des tristesses, des effrois et des désillusions aux yeux originellement ravis et au cœur lustral désengendré. Non, non, je n'écouterai jamais leurs voix insidieuses. Je serai réfractaire aux galantes disciplines, et quoi qu'en dira plus tard le juge libidineux pour me salir et me rendre haïssable aux ménades et aux louves en rut, je suis chaste et je mourrai vierge en m'étant conservée pour l'amour de tous. Ces choses, tu dois les entendre, toi, la simple, la vierge, car sans que tu le saches, tu es mille fois plus ma mère que n'importe quelle génératrice selon la nature. Si jamais je flattais une amante, ce fut la rouge lionne aux mamelles incandescentes, au lait de plomb fondu, dont la chevelure allume les torches des nouveaux zélotes et aux griffes de laquelle vont s'aiguiser les poignards de ceux qui ont abjuré les devoirs et les lois de la multitude. « Assez, assez !» supplie la pauvrette qui se voile les yeux pour ne plus voir. « Tu en as menti. Arrière, cette lionne de l'enfer avec son sinistre meneur. Loin de moi et de Santo. Oh non, ces mains que j'aime, ces petites menottes n'égarent leurs doigts que dans les blanches cloisons, en attendant qu'elles pétrissent la farine blanche de notre pain quotidien, n'est-ce pas, Santo? Petit boulanger, il raconte qu'un jour tu ne voudras plus pétrir du pain parce que tous les pauvres n'en mangent pas. Oh, reste à Milan, reste à ton métier, reste! Mais la voilà soulevée, séparée de lui, exilée brusquement dans une grande ville en fête, où la cohue chasse sans trêve, dans un tourbillon de tambours, de clairons, de piaves, d'épaulettes, de bannières, de girandoles, dans un perpétuel hosanna de viva, une apothéose dans le soir. Subitement surgit le pâle jeune homme à la casquette blanche. Il tire de dessous sa veste grise un grand poignard qu'il brandit, et ses lèvres rouges pâlissent, et ses yeux s'aimantent à on ne sait quel vertige, et cambré dans la pose d'un qui s'est élancé, une jambe levée d'aplomb sur l'autre, avec un geste énergique, il frappe au cœur de l'apothéose. Et l'on entend comme le jet d'une eau brusquement libérée. Alors une panique, des haros, des malédictions. Le tourbillon emporte le victimaire. Mais où es-tu, Santo? L'encens ne parvient plus ton puéril sillage. Pourquoi as-tu laissé choir ta croix d'or? Et l'agneau? Ah, il s'agit bien d'une autre hostie. C'est donc la lionne rouge, le fauve que tu donnais en laisse. Aussitôt après, un sale matin de suie et de bleu détrempé dans la même grande ville qui n'est pas Milan. Juste à l'heure où les boulangers, comme toi, cuisent leur pain, Monsanto. Des cliquetis de sabre au poing, de grands hommes à cheval passant au-dessus de la foule carnassière. Un vilain matin. C'est aussi l'heure où la besogne commence dans les abattoirs. Arrière, va des rétro. Encore une fois, frémissante et convulsée, la poétesse dépose la plume. Et pour s'arracher à l'obsession abominable, elle contemple le sommeil du petit Santo. Caro e dolce poverino. Oh, que la voyante voudrait ressonger à la procession de la fête Dieu, aux fleurs, à l'encens, à toutes ces blancheurs tièdes et béates. Mais, implacablement, le bénin cortège se transmue, on ne sait pourquoi, en une cavalcade véhémente, dans laquelle elle s'efforce vainement de maintenir l'image presque exorciste du petit Saint-Jean. Elle voit le petit haut se dérober à ses évocations et se transfigurer en le grand garçon blond et rose, doux et farouche, épineuse rose de sombre jeunesse, qui marche solennel à pas très rapprochés dans le vilain matin de suie et de brouillard, conduit lui-même par des gendarmes. Une confusion s'établit dans l'esprit de l'hystérique rimeuse entre l'enfant et le jeune homme, entre le bambino tenant en laisse l'agneau frisé et l'adolescent à la lionne rouge que mènent ligotés les sacrificateurs ricanants. Depuis longtemps, les bouchers ont oxy l'agneau du Baptiste et le pasteur puéril va rejoindre l'ouaille. Ne fut-il pas le précurseur? Alors, il lui faut jouer son rôle jusqu'au bout. Or, au bout de la carrière des précurseurs, il y a souvent la décollation. Quoi ? Le petit Saint-Jean moutonnier mièvre, et ce grand garçon robuste et de visage trop doux pour sa vocation, et de regard trop poétique pour tout ce que nos temps plats ont prévu de poésie. Quoi ? Le petit Mitron de Milan, et le panetier réfractaire, ce sacrificateur aux bénignes prunelles où les froids se cachent dans l'azur comme des orages sous les cimes neigeuses et constellées des Jungfrau, ces deux-là ne font qu'un. Alors, c'en est fait, vive la rouge lionne. Et qui que tu sois, je te bénis, moi, brave gars de la canaille souffrante, puis militante, qui sera l'église triomphante de demain. Car elle doit bien être odieuse, bien criminelle, cette race de riches, pour que de beaux éphèbes ingénus et tout en charme, comme toi, Monsanto, quoi devoir inaugurer les sanglantes représailles? Ô Santo, quelle est criminelle cette engeance, pour que ses yeux de lumière lustrale, ses yeux où rien n'a menti, où auraient dû se mirer les sourires et les enchantements d'un printemps perpétuel, se soit mis à réfléchir des cauchemars rouges, des couchants, des eaux plus sanglantes encore. Je te bénis contre tous, et je voudrais être Madeleine sur ton chemin de la croix. Je t'exalterai en dépit de cette foule ameutée sur ton passage. L'autre jour, une autre foule te portait au nu, petit Santo. Et cependant, tu es mille fois meilleur et plus adorable aujourd'hui que l'enfant des processions de la fête Dieu. Ton apostolique beauté exaspère les chiennes dont tu esquives les caresses. Ah, les mères stupides qui t'embrassaient et te défiaient l'autre fois sur les lèvres de leurs poupons, et qui aujourd'hui, forcenées et cubantes, ont armé de cailloux pour qu'ils te les jettent les petites mains de leurs petits. Et les inutiles, les lâches, les flétrisseurs de genoux, les vils iront se repaître de ta suprême convulsion et chercheront sur tes lèvres entrouvertes le baiser de ton âme à la fraternité lointaine. Ô Santo, quelle hérodiade a demandé la tête! Elle a dansé la courtisane monstrueuse, l'infâme fortune. Qui te pardonnera lorsque, calme et surugi et glapi, lorsque s'élève le cri de tout l'or menacé des affameurs, les ventres et les coffres ne peuvent te refuser à la bête dansante, et tous tes liens que la ballerine aurait pu porter sur les fiers pavois de la liberté et de l'abondance, les beaux gars qu'elle aurait pu exalter dans une apothéose de félicité suprême, elle préfère les affamer, les vieillir, les faner avant le terme. Pour orchestre, la cascade sinistre réclame les râles des meurs de faim, les cris des suppliciés de l'industrie et des bagnes militaires, les détonations des fusillades fratricides, les explosions des chaudières et des grisous. Elle danse devant les vieillards serviers, aux doigts rapaces et crochus, dans la luxure qu'on voit de l'or, toujours l'or. Trembleurs et lâches, énervés par ces voltiges, ils n'ont rien à refuser à la danseuse immonde. Oui, prends sa tête, société pourrie, blasphématrice de la bonté. Régale-toi, gorge-toi de cette jeunesse, aux pieuvres dont la beauté n'existe que par les négateurs de la justice et de la lumière. À la curée, la guillotine est là, dépêchons. Un fracas terrible a secoué l'institutrice. Elle s'aveugle d'une lumière livide, comme d'un immense couteau qui tomberait. Mais non, c'est le premier éclair de l'orage naturel, résultant de l'accablante journée. Heureusement, elle reprend pied dans le réel. Autour d'elle, les enfants prolongent leur sieste. Et Santo, son préféré, elle a déjà vu d'autre part cette tête bouclée, ce grand front et ses lèvres roses. Elle a même vu ce poing crispé. Me reconnais-tu? Ah, l'adolescent, le régicide, le supplicié, c'est lui-même. Elle défaille et recule, hésitante entre une prière et un cri d'effroi. À ce moment, le doux blondin s'étire, ouvre de grands yeux saphiriens et rencontre le regard angoissé de la bonne maîtresse. Ah, le très cher, l'aimé, le plus aimé! D'un mouvement jubilatoire et cependant pitoyable de vierge, devinant dès l'annonciation les affres au calvaire, elle fond sur le petiot et l'embrasse et l'étreint, tandis que lui, toujours rieur, regarde étonné, ne comprenant rien encore, ne sachant pourquoi cette effudite effusion et pourquoi, déjà, ce couteau dans sa main.